Gustavo Orenstein, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérant chez Dorval Finance. On va parler avec vous de stratégie sur ces marchés, également des perspectives. Comment vous analysez un petit peu ce qui s'est passé, on va dire, au cours des dernières semaines avec, on pourrait dire, que les investisseurs ont chaussé leurs lunettes roses pour voir effectivement ce qui leur convenait, notamment du côté de l'action des banques centrales et notamment de la BCE, en mettant peut-être un peu de côté d'autres aspects, notamment macroéconomiques?
Oui, effectivement, il y a eu un grand rebond de tous les actifs risqués, donc marché actions, également le crédit. Donc tout ça va effectivement accompagne beaucoup l'intervention de Mario Draghi. D'abord son annonce et puis son intervention effective. Mais il n'y a pas que ça. Je crois que même du côté de la macroéconomie, ce qui semble aujourd'hui, c'est qu'on peut commencer à espérer des signaux de stabilisation. En fait, lorsqu'on regarde les indicateurs avancés, par exemple les PMI, hein, ce type d'indicateurs, ça fait à peu près 18 mois qu'ils baissent. Et ils sont aujourd'hui dans des zones très très proches de la récession. Donc il y a un moment où les investisseurs doivent se poser la question, soit j'ai un scénario de récession, donc effectivement il y a une récession mondiale qui va arriver dans les prochains trimestres, soit il n'y a pas de récession. Et dans ce cas-là, on a probablement fait le plus bas de tous ces indicateurs de conjoncture. Et à partir de là, ça va commencer à se stabiliser. Alors l'intervention de la BCE spécifiquement a bien sûr eu un impact assez fort, parce que enfin l'Europe semble mettre les moyens derrière le support, le soutien à la zone euro. Donc c'est un mouvement extrêmement important, il était attendu, ça arrive bien sûr un peu tard, mais malgré tout, ça a son impact et c'est très positif d'abord pour les conditions financières. Alors c'est vrai que l'impact sur la croissance européenne, c'est un autre problème. Ça peut venir par la suite, si effectivement les conditions financières se détendent un petit peu dans toutes les, on va dire, les zones périphériques, notamment l'Italie et l'Espagne. Mais ça sera insuffisant pour relancer la croissance en Europe. Et pour relancer la croissance en Europe, il faut des décisions politiques fortes. Et je crois que Mario Draghi l'a aussi répété, la BCE joue son rôle, mais c'est au gouvernement de vraiment faire les réformes nécessaires pour que la croissance redémarre.
Oui, parce que là, on a plutôt aujourd'hui, alors aussi bien dans ces pays périphériques d'ailleurs, des mesures bien sûr de restrictions, mais en France également, on a un plan historique pour 2013. Donc on ne voit pas, on va dire, dans la plupart des pays d'Europe, de signaux de nouvelle croissance. On voit soit de la récession, soit la stagnation.
Oui, je crois que la crise dans les pays périphériques, hein, parce qu'aujourd'hui, en termes de croissance, là où la récession est la plus dure, c'est évidemment en Espagne, en Italie, en Grèce, au Portugal. Je crois qu'il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que le gros de l'effort budgétaire est passé. L'impulsion négative, c'était surtout en 2012. En 2013, ça sera un petit peu plus soft, on va dire. Et on voit par exemple le Portugal, à qui on a laissé un peu plus de temps pour corriger son déficit budgétaire. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un élément très positif qui va quand même faire que le gros du choc était cette année. L'année prochaine, ça sera un petit peu moins. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une grande reprise, mais au moins, l'impulsion fiscale négative va se réduire. Première chose. Deuxième chose, les interventions de la BCE sont de nature quand même à détendre un petit peu les conditions financières, à faire baisser les taux d'intérêt, ce qui va quand même un petit peu soutenir l'activité, aider les entreprises à se refinancer et à poursuivre leur activité. Donc on ne s'attend pas évidemment à une reprise très forte, mais je crois quand même que quelque part le pire est passé en termes de choc. Maintenant, la question, c'est à quelle vitesse ça repart? Et là, c'est vrai que ça va prendre beaucoup de temps, notamment en Espagne. Ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps avant vraiment de redémarrer. Après, concernant l'Allemagne, je crois quand même que les fondamentaux restent bons. Alors évidemment, elle souffre, comme le reste de l'Europe, du ralentissement mondial et du ralentissement européen. Mais les fondamentaux restent bons. Et donc, à partir du moment où l'économie internationale se stabilise, je pense que l'Allemagne va reprendre quand même le chemin de la croissance, ce qui soutient l'ensemble de la zone euro.
Alors, du côté des États-Unis, il y a bien sûr des échéances politiques, mais des échéances aussi importantes du côté de la dette. Là aussi, on pourrait dire, on va peut-être avoir un scénario comme celui d'un été, alors que là, on sera largement dans l'automne, avec encore beaucoup d'incertitudes sur cette dette et selon le résultat des élections, l'impact sur l'économie américaine à venir.
Absolument. Le mot incertitude est important, puisqu'en fait, l'incertitude elle-même a un impact sur l'activité économique. Aujourd'hui, les entreprises américaines évitent d'embaucher, évitent d'investir, parce que la situation est incertaine, liée notamment à ce problème budgétaire américain. Alors, finalement, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'informations sur comment ça va se dérouler. On peut juste espérer, évidemment, que le fameux fiscal cliff n'ait pas lieu, que républicains et démocrates se mettent d'accord après l'élection pour, à minima, éviter qu'il y ait ce choc très fort sur le PIB. Je rappelle que le fiscal cliff, grosso modo, ça représente 4 points de PIB. Donc, ça serait 4 points de PIB en moins si rien n'était fait. On peut imaginer qu'ils vont se mettre d'accord à minima. Ceci étant, ce ne sera pas suffisant, et c'est ce qu'a rappelé Moody's il y a quelques jours. Il faut également un plan crédible à moyen et long terme pour réduire la dette. Je crois qu'encore une fois, là aussi, c'est entre les mains des politiques, c'est tout à fait possible. Les États-Unis sont dans une situation où ils peuvent réduire dans la durée, sans précipitation, leur déficit budgétaire, mais encore faut-il se mettre d'accord qu'il y a un consensus minimum donc aux États-Unis. On peut l'espérer, on ne peut pas en être certain.
Ça sera l'année prochaine. C'est l'année prochaine. Alors on attendait aux États-Unis, notamment sur l'immobilier, puisque qui était quand même pour une bonne part à l'origine de la crise, en tout cas de cette persistante de la crise. On a eu des signaux un peu plus positifs. Est-ce que vous les avez regardés aussi en éléments favorables, je dirais, pour les États-Unis?
Oui, je crois que ça c'est important, puisque cette crise est surtout la sortie de la grande récession de 2008-2009, elle est longue parce que c'est une crise financière, elle est longue parce qu'il y a le fameux deleverage des ménages. Et ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que ce deleverage a quand même déjà en grande partie eu lieu. Aujourd'hui, les taux d'endettement des ménages américains sont revenus, disons, au début de l'ère Bush, on va dire, donc de cette tout d'un coup envolée qu'il y a eu de la dette. Donc tout ça a été effacé et donc aujourd'hui les ménages américains sont quand même dans une position plus favorable pour reprendre un cycle un peu plus normal, et ça se voit dans l'immobilier. L'immobilier est en train de se stabiliser, pas de redémarrage très important, mais rien que la stabilisation, ça suffit déjà à améliorer un peu la situation. Et par exemple, Paul Krugman espérait dans un éditorial du New York Times il y a quelques jours que les 4 prochaines années, selon lui, seront meilleures que les 4 dernières. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, bien sûr, à l'économie américaine.
Alors, du côté des entreprises, peut-être maintenant, là, on a vu qu'après leur redressement, effectivement, on a eu redressement 2010, 2011, 2012, les comparables, ça commence à être difficile. Et puis, on sent que les entreprises commencent, elles aussi, à souffrir de ces problèmes, effectivement, macroéconomiques, de problèmes des États un peu partout. On sent que c'est plus compliqué pour les entreprises aussi.
Absolument. Ce qui se passe, c'est que la croissance économique est en train de ralentir, clairement. Et encore une fois, ça fait un an et demi qu'elle est dans cette phase de ralentissement. En Europe, c'est évident. Aux États-Unis, je dirais que la croissance s'affaisse, mais bon, elle est toujours entre 2, 2,5, et ça nous semble être raisonnable pour la croissance américaine. Et puis, il y a les émergents qui ralentissent également, la Chine, le Brésil, les grands émergents, mais l'ensemble du monde émergent est aussi dans cette phase de ralentissement. Donc, évidemment, les entreprises souffrent de ce ralentissement. Alors, dans le même temps, elles sont bien gérées, des bilans très sains, peu d'endettement. Et du coup, la situation globale reste favorable, elles sont solides, mais bon, les chiffres d'affaires étant en baisse, c'est vrai que ça peut peser sur ça pèse évidemment sur les résultats. Bon, ceci étant, aujourd'hui, la valorisation des actions est très faible, surtout si on la compare aux obligations. Et du coup, il nous semble que même si les résultats peuvent un peu décevoir, ça ne veut pas dire pour autant que les marchés actions doivent corriger beaucoup, vu qu'ils sont aujourd'hui très peu chers.
Justement, en conclusion peut-être sur la stratégie d'investissement, on a vu que les investisseurs avaient été pour reprendre un peu de risque, mais quand on regarde les volumes, sur les actions notamment, ça reste encore faible en tout cas. Comment évolue votre stratégie justement entre les actions ou d'autres actifs à mettre en portefeuille?
Alors en fait, je crois qu'il va y avoir deux phases dans le marché. La première phase, celle qu'on vit aujourd'hui, c'est la réduction de la prime de risque. Donc cette réduction de la prime de risque, elle est favorable aux actifs là où la prime de risque était la plus élevée, donc s'ils sont les actions européennes, surtout les secteurs, on va dire, value, je pense aux financières, où il y a d'autres secteurs, des secteurs très cycliques, qui étaient très, très sous-valorisés. Donc cette première phase de réduction de la prime de risque est favorable aux actions, favorable au crédit haut rendement, favorable également aux obligations financières, obligations des banques. C'est ce qui va monter le plus, c'est ce qui monte le plus en ce moment et ce qui pourrait continuer ce mouvement. Et puis dans le deuxième temps, une fois que la croissance va se stabiliser, comme nous le pensons, eh bien, on va pouvoir revoir un retour un peu des valeurs de croissance et des valeurs qui d'ailleurs jusque-là ont plutôt bien fait, qui ont fait une pause un peu ces derniers mois, mais qui pourraient reprendre leur bonne performance. Donc il y a ces deux phases. Donc nous aujourd'hui chez Dorval Finance, dans les fonds, donc dans l'allocation d'actifs, nous sommes assez équilibré entre actions et obligations, mais dans le monde obligataire, nous favorisons très très largement le crédit, notamment la partie la plus risquée, donc le crédit haut rendement. Et dans les actions, nous préférons l'Europe en ce moment, qui encore une fois bénéficie de cette réduction de primes de risque, malgré les problèmes de croissance. Ça, on en parlera un peu plus tard, mais pour l'instant, on est encore dans cette phase de réduction de primes de risque liée, encore une fois, à l'intervention des banques centrales, donc la BCE. La Fed peut être largement attendue demain. On verra. Et puis, également lié à un début de stabilisation du cycle international.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Gustavo Orenstein. On rappelle que vous êtes donc gérant chez Dorval Finance.
Merci.